Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
C'est la deuxième heure de BFM Patrimoine qui s'ouvre et on file tout de suite sur le marché, rejoindre Henri Tassot qui nous attend à Nantes chez Ports-en-Part. Bonjour Henri.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Qu'est-ce qu'on se dit en regardant ce marché qui est assez fortement impacté, qui essaye de préserver les 5007 mais qui est assez remuant?
Oui, on est dans une séquence depuis quelques séances effectivement plutôt négative. Ce qui anime les marchés, toujours un peu les mêmes thèmes, hein, évidemment le contexte macro avec ses nécessités de relèvement de taux. La Christine Lagarde a eu un discours sans équivoque, hein, la priorité de la BCE, c'est surtout le contrôle de l'inflation, pas la croissance. Donc on va continuer à avoir des hausses de taux. Ça plante un peu l'ambiance. Et puis la deuxième thématique, évidemment, qui est celle de l'énergie, à nouveau, les tensions sur les approvisionnements du gaz russe. Là, on vient d'avoir hier les nouvelles de fuite de gaz, peut-être orchestrées, allez savoir, mais en tout cas, qui font planer à nouveau les risques de récession, de pénurie d'énergie et de gaz sur un court terme. Donc, récession, inflation, là aussi, des éléments effectivement assez pesants, quoi. Du coup, les marchés sont un peu en proie à des éléments, un peu de soutien, en fait, hein, de la part des publications aujourd'hui. On plie un petit peu plus fortement.
Voilà donc le sentiment de marché proposé par Henri Tassot depuis Ports-en-Part. Un petit mot d'un dossier, Trigano?
Alors là, je vais démentir un petit peu ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que là, c'était les mauvaises nouvelles. Là, on va parler des bonnes nouvelles. Trigano, qui est le leader européen des véhicules de loisirs. Principalement, on le connaît à travers ses camping-cars. Le Salon du Bourget, d'ailleurs, en cours. A connu une année assez particulière, avec une demande qui est très très forte et une incapacité à livrer cette demande du fait des pénuries de composants, principalement les châssis de véhicules. Malgré ça, la société vient de délivrer son chiffre d'affaires de fin d'année, qui est plutôt bon, plutôt solide, mais c'est surtout en fait le discours et les éléments que la société apporte sur la nouvelle année 2023, qui rassure assez vivement les investisseurs. Là encore, la société décrit un environnement où la demande reste très forte. Après avoir passé le salon du Düsseldorf, qui est un gros salon du camping-car, le salon du Bourget également en cours, là aussi, la demande est très vive. La société en est même à refuser de prendre des commandes au-delà de juin 2023. Donc voilà, une ambiance quand même très porteuse sur ce marché-là. Et en face de ça, les problématiques industrielles d'approvisionnement de châssis que la société a éprouvées au cours de l'exercice précédent semblent se desserrer progressivement. Et ça, c'est un gage de croissance à nouveau sur 2023 et de forte rentabilité grâce à tous les efforts que la société a déployés pour maîtriser ses coûts et développer sa productivité. Donc voilà, une publication qui est très très bien reçue par le marché. On est en hausse de un peu plus de 11% au moment où on parle. Ce qui est assez logique quand même, hein, par rapport à ces éléments-là.
Merci beaucoup.
Reste acheteur.
Henri Tassot, Ports-en-Part, qui nous accompagnait ce matin. Le marché parisien, qui est en ce moment en baisse d'un 0,5%, 5693 points. Et nous, tout de suite, on retrouve Stéphanie Collo pour l'Info Éco.
BFM Business, l'Info Éco, Stéphanie Collo.
Et à la une, c'est la réforme des retraites qui sera au cœur d'un dîner ce soir à l'Élysée. Emmanuel Macron reçoit la majorité présidentielle pour décider de la méthode. La piste privilégiée par le chef de l'État reste un amendement au budget de la sécurité sociale. Les parlementaires penchent, eux, pour un texte dédié. Mais une troisième piste émerge, celle d'un budget de la sécurité sociale rectificatif en janvier, ce qui laisserait le temps à plus de concertation. Quoi qu'il en soit, pour Gabriel Attal, le principe de la réforme est acté. Le ministre délégué en charge des comptes publics était l'invité de Good Morning Business ce matin.
Je suis pour que la réforme entre en vigueur à l'été 23. Ensuite, est-ce qu'il faut un amendement là ou un texte de loi en début d'année ? Enfin, objectivement, ça devient une question assez accessoire puisque le principe de la réforme est arbitré et que le calendrier de son application est déjà arbitré. La question, c'est le vecteur. Moi, je vais vous dire, je pense qu'il faut le vecteur qui nous permet d'avoir une vraie discussion. Et je dis ça pourquoi ?
Donc un vrai texte.
Bah, une vraie discussion en tout cas. Mais pour avoir une vraie discussion, il faut qu'il y ait des personnes autour de la table qui sont prêtes à avoir une vraie discussion.
Le moral des ménages repart à la baisse en septembre et recule de 3 points. C'est plus qu'attendu. L'indicateur de l'INSEE renoue avec son niveau de juillet. La piste du sabotage désormais clairement évoquée à Bruxelles au sujet des fuites sur les gazoducs Nord Stream. Bruxelles promet une réponse la plus ferme possible et met en garde contre toute attaque contre ces infrastructures. Trois grandes fuites ont été détectées sur les deux gazoducs qui relient la Russie à l'Allemagne. RTE va reverser plus d'un milliard d'euros à ses clients, un montant inédit en raison de la forte hausse de ses recettes. Ce sera en début d'année prochaine, plus tôt que prévu, pour que ses utilisateurs, notamment les grands sites industriels, bénéficient de ce soutien dès le début de l'année 2023. Les salariés de Stellantis en grève aujourd'hui. Les syndicats du site de Rennes jugent insuffisant le versement d'une prime de 1000 euros pour faire face à l'inflation. Ils réclament une augmentation des salaires de 400 euros avec aucun salaire en dessous de 2000 euros. Euronet. Ils appellent également à élargir le mouvement de protestation. Et puis, on termine avec ce départ surprise du directeur créatif de Burberry. Ricardo Tisci démissionne et quitte le groupe de luxe britannique à la fin de la semaine, après 5 années à son poste. Il est remplacé par Daniel Lee, anciennement chez Bottega Veneta. Cédric.
Merci beaucoup Stéphanie Collo pour l'Info Éco. Tout de suite, regard croisé.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Hervé Gouletker et Ronan Blanc sont en plateau. Bonjour messieurs.
Bonjour à tous les deux.
Ronan pour Financière Arbevel, Hervé pour Accuracy. Bon, on voit ce marché qui souffre parfois, qui essaye de faire ce qu'il peut pour ne pas trop casser de seuil technique. C'est vrai qu'il y a de l'inflation, il y a de la récession. Est-ce que les mauvaises nouvelles vont encore produire de l'effet ou est-ce qu'elles sont, comme on dit en bon français, déjà pricées selon vous, Hervé ?
En fait, on aurait envie de répondre oui à la question parce que l'inflation est sans doute proche de ses plus hauts. On a envie de dire qu'au niveau des anticipations de durcissement de la politique monétaire avec des niveaux maximum de taux directeurs autour de 4,5 aux États-Unis, de 3 en Europe, c'est déjà beaucoup. Et on voit bien que tous les consensus sur la croissance économique ont été revus à la baisse. Et donc, on va avoir un épisode de repli de l'activité. Donc, c'est vrai, si on prend tout ça en compte, la réponse serait plutôt oui. Mais tout ça se positionne dans un environnement international qui est pas très très lisible, et je dis ça de façon gentille. Qu'est-ce qui va se passer sur le front de la guerre russe en Ukraine? Avec quelle implication sur l'énergie, sur ses prix? On n'en sait fichtre rien. Donc, à aujourd'hui, on a anticipé beaucoup de choses qui sont dans les prix. Ça se voit sur le niveau des taux d'intérêt à long terme, ça se voit sur les niveaux de bourse, avec peut-être une parenthèse, les anticipations de progression des profits pour 2023 restent peut-être un peu élevées, mais il y a déjà beaucoup. Mais la capacité à être surpris reste grande et je pense que à ce titre-là, on est quand même encore plombé.
Ronan, vous avez l'impression qu'aussi c'est pricé ou pas encore ?
La difficulté, c'est souvent les risques arrivent de là où on les attend le moins. On commençait à avoir un petit peu de mieux, notamment sur le front des prix, ça c'est clair. On parlait de Trigano tout à l'heure, une des bonnes nouvelles qui n'a peut-être pas été dite, c'est qu'au niveau de la chaîne d'approvisionnement, il y a aussi du mieux. Ils avaient des difficultés à avoir des châssis, ils commencent à en avoir de plus en plus. Donc on rappelle quand même que c'était un des noyaux de compression qui avait été à l'origine finalement de la poussée des prix. Le contexte géopolitique est particulièrement pesant. Le sabotage hier donc pose maintenant la difficulté de la sécurisation des infrastructures énergétiques en Europe dans un contexte de crise de l'énergie qui est parti pour s'inscrire dans la durée. Donc on imagine très bien en mer Baltique, finalement, un embouteillage de sous-marins, un peu comme on a sur le périph parisien, pour protéger ces infrastructures. Parce que là, le dernier gazoduc qui a été inauguré de Norvège vers la Pologne, passant par le Danemark, clairement, on a tout ça quand même un petit peu en tête. Maintenant, c'est facile de voir le mauvais côté des choses et le côté pessimiste des choses en ce moment. On a quelques éclaircies sur le front monétaire. Tant qu'on n'aura pas de stabilité sur la partie obligataire taux, on ne gagnera pas en visibilité. Et on a eu une communication qui est passée un petit peu inaperçue du président de la Fed de Chicago hier, Evans, qui nous parle d'un plafond autour de 4,25, 4,5, avec une période pendant laquelle, début 23, courant printemps 23, la Fed va prendre le temps du diagnostic. Et elle a raison de le faire, pour la bonne et simple raison que la hausse qui a été pratiquée ces derniers mois, elle va commencer à donner, à avoir des conséquences en termes de momentum économique maintenant et dans les prochaines semaines. Et donc, il va falloir un petit peu lever le pied, parce que les supply chains, ça s'améliore, les coûts du fret sont en baisse. Le chômage, on sait que c'est toujours un indicateur retardé qui va mettre du temps à réagir. Mais sur le front de l'immobilier, il gérait aussi une situation de prix dantesque. Bah là, on se rend bien compte que tous les éléments sont là pour refroidir ce secteur, et ça commence à apparaître de plus en plus visible dans certaines grandes villes américaines. Donc voilà, ce schéma-là est en train de se mettre en place. Maintenant, la complexité du contexte géopolitique nous aide pas à un moment où on pouvait gagner un petit peu en visibilité monétaire.
Le cadre est posé. Maintenant, rentrons dans quelques détails, quelques dossiers. D'abord, le cas anglais avec cette énorme pression. Rien ne va plus, Hervé ?
Il y a sans doute un contresens de politique économique commis par la nouvelle équipe à la tête du gouvernement britannique. Bon, on sait que Madame Truss fait partie du fan club de Maggie Thatcher. D'ailleurs, on le voit, sa façon de s'habiller, même sa façon de parler. Donc, elle est très sensible à la personnalité, aux actions de Maggie Thatcher. Maggie Thatcher a été profondément utile au Royaume-Uni. Je pense que au sortir de l'expérience Callaghan, donc deuxième partie des années 70, l'économie va pas bien du tout et il fallait un remède de cheval pour permettre à l'économie de repartir. Donc Maggie Thatcher a été dure mais a été utile. Est-ce qu'aujourd'hui revenir sur une politique à la Reagan, à la Thatcher, est ce qu'il faut au Royaume-Uni? Moi, j'ai envie de répondre non. La baisse des impôts, le niveau de prélèvement au Royaume-Uni n'est pas terriblement élevé, au moins dans un cadre européen. Le niveau de réglementation pour gérer l'économie n'est pas non plus terriblement élevé. Donc, vouloir baisser tout ça, c'est sans doute pas la bonne réponse. Ce dont a besoin l'économie britannique, c'est une double assurance sur ses marchés, l'ouverture de ces marchés et l'accès, je dirais, aux facteurs de production dont elle a besoin. L'économie britannique manque d'investissement, manque de capacité d'emploi. Ça, c'est un problème et il faut rassurer les entreprises sur leur accès au marché européen. C'est aussi simple que cela, mais on voit qu'il y a une attitude très crispée de ce gouvernement par rapport à l'Union européenne, par rapport à l'application du traité de séparation. Donc c'est là où il y a un contresens. Il faut faire la bonne politique adaptée au moment présent, reprendre la politique d'il y a une cinquantaine d'années.
Oui. 45, même si elle a marché.
Voilà, Et donc le marché, à mon avis, de façon assez sage, dit c'est sans doute pas la bonne façon de faire.
Sage mais vigoureuse. Hein, les taux britanniques, c'est 5% de hausse en l'espace de 10 jours. Dans l'abécédaire de tout ce qu'il ne fallait pas proposer et pas faire, globalement, le gouvernement britannique a quasiment tout coché. Hein? Ils sont traités comme un pays émergent aujourd'hui. Je pense que, de mémoire, j'ai rarement vu le FMI être aussi offensif vis-à-vis d'un pays développé en appelant un retour en arrière sur la politique de relance fiscale. Donc c'est l'exemple type à ne pas suivre. Ils n'ont pas le parachute de protection européen puisqu'ils ont décidé d'en sortir. Donc heureusement pour nous, on a ce parachute-là, mais ce n'est pas un parachute qui est perméable à tout ce qui peut se passer. Et d'ailleurs, les taux européens, notamment les taux italiens, suivent un petit peu la même direction. Et si on doit prendre un exemple contraire, la Norvège, qui est quand même pas le pays le plus pauvre sur le continent européen, a décidé de taxer son secteur du saumon pour équilibrer ses dépenses fiscales. Donc on se rend compte que voilà, ils font tout le contraire de ce qu'il faut faire aujourd'hui. Ils n'ont pas une industrie suffisante pour pouvoir bénéficier de la dévaluation du sterling et regagner dans une certaine dynamique des exports, parce que c'est un pays quand même très tourné vers les services. Donc voilà, c'est quand même une piqûre de rappel. Le gouverneur de la Banque de France l'a rappelé à demi-mot devant les députés français, que la vigilance sur la dépense publique, c'est clairement une priorité, parce que sinon, on est un petit peu les prochains sur la liste, et on sera clairement pas aidé par la BCE, qui est plutôt en train de préparer le terrain à un début d'arrêt de ces achats massifs.
On va revenir sur la Banque Centrale Européenne. Vous parliez d'Italie. On change de voisin, entre guillemets. Il y a un problème italien ?
Alors, il y a toujours eu un problème italien. La feuille de route qui se sont données sera clairement pas celle qu'ils vont emprunter, parce qu'ils vont être obligés de naviguer dans un contexte de taux beaucoup plus difficile. On a souvent parlé d'un plafond, vous savez, l'écart de rendement entre les taux italiens et taux allemands, au-delà duquel la BCE se sentirait obligée d'intervenir. La vérité, c'est que au sein du board de la BCE, il y en a deux. Plus en plus de voix qui disent que c'est un petit peu les Italiens qui provoquent eux-mêmes cette poussée de fièvre avec toutes les déclarations qui anti-européennes qui ont été un peu faites, et peut-être une velléité de dépenses supplémentaires, alors que c'est le pays qui a le plus bénéficié du package d'aide post-crise sanitaire. Donc de ce côté-là, je pense qu'il ne faut pas trop attendre de la BCE pour endiguer cette hausse. Ça viendra des Italiens. Heureusement, le gouvernement Mario Draghi a quand même fait pas mal de choses le peu de temps où ils étaient présents au gouvernement. Donc j'espère que il n'y aura pas de rétropédalage, mais cette pression, elle va être maintenue, elle va pas disparaître du jour au lendemain.
Hervé, comment vous jaugez le cas italien ?
Si je peux dire juste un mot sur le Royaume-Uni avant de passer à l'Italie, c'est l'histoire du FMI que rappelait Ronan. En fait, c'est pas n'importe quoi. En fait, cette histoire du FMI, il faut savoir qu'en 76, je crois que c'est l'année, sous le gouvernement Callaghan, il y a eu une mission du FMI au Royaume-Uni qui a été considérée comme une humiliation par le pays, et ça a facilité en fait l'arrivée au pouvoir de Maggie Thatcher. Donc cette réaction aussi forte du FMI, c'est un rappel de tout ça. Et donc ça, faut le garder à l'esprit. L'Italie maintenant. En fait, moi je crois qu'il faut pas être très inquiet en termes de politique économique italienne. Et je dis ça pour des raisons très politiques. Ça n'enlève rien à tous les problèmes de l'Italie et il faudra beaucoup de gestion sérieuse. La première réalité, c'est le rapport de force au sein de la nouvelle coalition. La Ligue fait moins de 10%, 9%, là où les frères d'Italie font 26%. Le rapport de force est institué et c'est la Ligue qui poussait pour la baisse des impôts, c'est la Ligue qui poussait pour l'augmentation des prestations sociales. Tout ça ne se fera vraisemblablement pas, pas avec l'amplitude voulue par la Ligue. Le deuxième élément, c'est que on dit c'est la première fois qu'on va avoir un gouvernement avec à sa tête quelqu'un issu des rangs néo-fascistes. C'est vrai, c'est l'histoire italienne, mais par contre des coalitions avec Forza Italia, Berlusconi, la Ligue, les Frères d'Italie, c'est la énième. Les Frères d'Italie, ça s'appelait le MSI avant. Et en fait, ce qu'on voit en termes de politique économique, c'est tout de même que Forza Italia et les Frères d'Italie sont à peu près avec les mêmes visions. Et finalement, c'est une politique qui est libérale, plutôt conservatrice / prudente. Donc je pense qu'à ce titre-là, on sait à peu près comment la politique économique marchera. Les inconnus, ça tient de la politique intérieure. Hein. Celle qui sera première ministre est très conservatrice, et donc quelle déclinaison en politique intérieure cela aura. Sur la politique européenne, à mon avis, les enjeux sont moins sur la politique économique, une fois encore, que en fait, elle sera moins pour une intégration européenne, plus pour une Europe des nations. Et donc là, on va trouver un axe plus puissant. Hein. Il y aura la Pologne, il y aura la Hongrie, il y aura l'Italie. Donc oui, il y a de vrais dossiers, mais est-ce que ces dossiers vont entraîner, je dirais, des choses néfastes pour l'économie italienne avec un double ricochet, l'économie européenne et les marchés de capitaux? Moi, j'aurais envie de dire, a priori, que ça ne se passerait pas comme ça. Bon, il faut évidemment être vigilant parce que on jugera sur les faits.
Voilà donc ces deux cas-là. Un petit mot aussi de nos banques centrales. Bon, on a beaucoup parlé de la Réserve fédérale. On a beaucoup dit que la cadence de observée par la Fed faisait pas forcément les affaires de la BCE. Et ce matin, c'est Olly Rehn qui nous dit que la BCE a besoin d'une hausse de taux significative en octobre qui pourrait être de 50, de 75 ou de quelque chose d'autre. C'est quoi 25? Quelque chose d'autre? C'est 25 ou c'est 1?
Non, la vérité, c'est qu'on sait que la BCE marche dans les pas de la Fed parce qu'ils ont bien en tête la parité de devises. Hein. Tout le monde est à égalité maintenant, un sterling, un dollar, un euro quasiment. Donc ça pose des problèmes sur le niveau d'inflation apportée. Clairement, on sait tous que le choc inflationniste en Europe a quand même pour principale origine la montée des prix de l'énergie, et la BCE là-dessus elle a pas véritablement la main. Sur la thématique des salaires, qui est le fameux effet de second tour, oui, effectivement, on n'est plus du tout sur les mêmes rythmes que les décennies passées, mais de toute manière, on sait tous qu'on va atterrir sur des niveaux d'inflation structurellement plus élevés avec les déterminants qu'on a déjà évoqués, fragmentation, mondialisation, j'en passe à des meilleurs. Donc là, ils ont une fenêtre de tir pour faire entre guillemets le job, ce qu'ils auraient peut-être dû faire un petit peu avant, mais à l'image de ce qui se passe côté Fed, et c'est un peu l'élément directeur sans mauvais jeu de mots, si l'ajustement monétaire se termine entre guillemets fin d'année, début d'année prochaine, et qu'on a une période un petit peu d'encéphalogramme plat du temps du diagnostic, on voit mal la BCE continuer à appuyer assez fortement. Donc quelque part, dans sa logique, il a raison de dire: marquons un petit peu les esprits et procédons à des tours de vis un peu significatifs à l'image de ce que fait la Fed à court terme, pour se retrouver avec un peu plus de visibilité sur le cycle l'année prochaine, sachant qu'on sait pertinemment que la récession s'est beaucoup plus installée dans la durée en Europe qu'aux États-Unis. Mais on en parlera peut-être sur la partie gestion d'actifs. Les entreprises européennes sont peut-être aussi dans une situation bilancielle beaucoup plus qualitatif que les homologues américaines. Donc là encore, faut pas uniquement prendre le prisme un peu négatif. Les chefs d'entreprise en Europe ont l'habitude, malheureusement, tous les 4 ans, de gérer une crise du siècle. Donc ils n'ont pas attendu la énième pour protéger les bilans et faire en sorte qu'ils aient pas un mur de dette devant eux à refinancer.
50, 75, 100, ou alors Olly Rehn, il voulait dire 25?
Non, Olly Rehn ne voulait pas dire 25. Je pense que oui, 50, c'est le jalon bas. 75 me semble être le jalon haut. 100, c'est sans doute de la surenchère. Non, ce qui est clair, c'est que les banques centrales, au moins de nos pays, je pense États-Unis, Royaume-Uni et puis zone euro, sont dans une logique de court terme, absolument, de court terme. C'est-à-dire que leur ambition, elle est double. C'est garder le crédit qu'elles ont auprès des marchés de capitaux, auprès des milieux d'affaires, et assurer que les anticipations inflationnistes restent bien ancrées. Elles le sont aujourd'hui. L'environnement est incertain. Chacun peut faire les paris qu'il veut sur le profil exact des prix de la croissance. On en parlait précédemment, mais tout ça demande confirmation. Donc en fait, leur ligne directrice est simple. Aujourd'hui, on gère le court terme et donc il faut avoir une politique plutôt à resserrer de façon marquée. La bonne question, à mon avis, aujourd'hui, c'est combien de temps ça va durer. Moi, j'ai envie de dire simplement et pas précisément, parce que c'est compliqué, mais que ça va durer jusqu'à la fin de ce trimestre, donc la fin de cette année. En début d'année prochaine, moi, je ferai un double Paris, nonobstant l'environnement international, que bah, sur l'activité, ça fera un peu plus mal que ça ne fait mal aujourd'hui, que sur l'inflation, on aura un regard qui commencera à être moins inquiet, et qu'à ce titre-là, à ce moment-là, les banques centrales nous raconteront une autre histoire. Donc aujourd'hui, c'est l'histoire pleine et entière, mais les histoires, elles sont faites pour changer. Et donc la question, c'est quand celle-là va-t-elle changer ?
Voilà donc ces quelques grands dossiers évoqués. Du coup, en termes de portefeuille, comment on fait pour être à l'aise ? Il faut se gaver de défensive ? Il faut
Non, si on est d'accord avec ce discours, ce diagnostic sur les politiques monétaires et le fait que finalement le fameux pivot Fed est peut-être pas si éloigné, faut reconsidérer les actifs dits à duration longue, donc sensibles aux variations de taux d'intérêt. Donc c'est la partie action qui a le plus souffert, donc croissance notamment, mais c'est aussi la partie crédit, dette d'entreprise. J'évoquais juste avant la qualité des bilans des entreprises européennes, c'est une réalité, et aujourd'hui sur certaines valeurs de dette, vous êtes largement rémunéré pour le risque. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a lancé un fonds un petit peu sur ce sujet avec une maturité fixe 2028, parce que aujourd'hui, vous avez un gisement de qualité avec des rendements de 7,5-8% brut, qui, je pense, sont suffisants pour faire face à un scénario économique même adverse. Nous, ce qu'on regarde principalement, c'est notamment le ratio de couverture des taux d'intérêt, la capacité des entreprises à faire face à leurs échéances financières courante, et on est sur des niveaux encore élevés, ils ne vont pas le rester, bien évidemment, mais c'est un matelas de sécurité qui nous paraît suffisant.
Hervé,
si on est dans
faut se gaver de protection avec des défensives, ou je ne sais pas comment.
Moi, j'ai envie de dire que d'abord, il faut avoir un gros cœur pour reprendre du risque, parce qu'on échafaude des plans, mais en fait, la réalité du moment
est
même compliquée. Donc, mais si tant est qu'on ait un gros cœur et qu'on accepte de raisonner à plus de 3 mois, ce qu'à mon avis pas beaucoup de gens font aujourd'hui, moi j'aurais envie de dire, si on a raison dans l'histoire qu'on raconte, d'abord revenir vers les titres d'État, ça peut ne pas être mal, parce qu'aujourd'hui ça monte et ça fait mal. Par contre, ça pourrait être plus attrayant, un rendement, et peut-être, avec un peu de chance, des gains en capital. Après, le crédit, ça va dépendre de l'ampleur des difficultés économiques que l'on va rencontrer. Donc, de façon sélective, peut-être plus l'investment grade que le high yield dans ce cas-là. Et dans l'investment grade, il faut sans doute regarder où on met les pieds. Et les actions, oui, il faudrait revenir sur les actions en faisant les bons choix, quoi. Les titres qui sont quand même capables de passer cette période qui, en termes de croissance, va pas être très simple. Donc, si on a un gros cœur, des titres d'État, des actions et du crédit bien sélectionnés, oui, mais voilà, il y a du passage à l'acte là-dedans, et c'est ce passage à l'acte qui ne va pas être très facile.
Hervé Goulet-Kerr pour Accuracy et Financière Arbovel et Ronan Blanc au cœur de Regards Croisés. Merci messieurs d'avoir rejoint le plateau aujourd'hui encore. Le marché parisien, il perd 1,64%, il est sous les 5700 points, on va voir ce qu'on dit dans un instant. Gilles Santacreux depuis boursicoté.com. Vous n'oubliez pas non plus les replays qui vous attendent. Ils sont disponibles sur notre site ou sur votre plateforme préférée.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. BFM Business, l'émission 100% placement. BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Il nous reste une demi-heure à passer ensemble et on continue à vivre notamment au rythme des marchés pour une séance un peu délicate avec les 5700 points menacés, pour le moment cassés, 5668 points et une baisse d'un 49%, on est quasiment sur les plus bas du jour. Gilles Santacreux suit tout ça pour nous depuis boursicoté.com. Ouais, ça bouge pas mal et a priori la baisse se renforce, Gilles.
Oui, tout à fait. Tout à l'heure, lors de notre première intervention avec Jean-Louis, on constatait qu'en fait, suite à l'ouverture du gap baissier, il y avait une certaine accalmie sur l'indice et on se demandait si ça allait rester comme ça. On a la réponse, hein. On a inscrit un nouveau plus bas significatif, donc il y a peu. Donc le CAC 40 confirme qu'on est donc sur une poursuite de mouvement baissier suite à l'ouverture du gap de ce matin. Alors c'était prévisible lorsqu'on regarde un petit peu ce qui se passe depuis la nuit de dimanche à lundi sur le marché des devises, où on a une forte baisse de l'euro-dollar, on a eu une dégringolade du câble, la paire de devises livre sterling contre dollar américain. On savait qu'il y allait avoir des répercussions sur le marché action. On a aussi une forte hausse des taux obligataires qui rend moins attractif le marché action. Et on a aujourd'hui des cassures de zones majeures sur divers indices. On a cassé les 12 000 points sur le DAX. On est en train d'attaquer sur les futurs du Nasdaq les 11 000 points. On a un niveau aussi de support majeur sur le S&P 500 à 3 650. Lorsque l'on a comme ça, sur plusieurs indices, des cassures de zones majeures, en général, c'est pas très bon pour la suite. Ça veut dire qu'on peut s'attendre à une poursuite du mouvement baissier. Donc, il faut faire attention à ça sur toutes les zones là qui sont en train d'être testées. Si elles cassent tout en même temps, peuvent nous apporter énormément de volatilité sur les marchés. Donc, en fait, ce dont on parlait, savoir la répercussion des décalages que l'on a sur le marché des devises vers le marché action est en train de se mettre en place. Si on rajoute à cela la baisse de l'or et le contexte géopolitique qui reste toujours lourd, en fait, pour l'instant, on ne voit pas sur quelle news, en fait, parce que le news flow est très négatif actuellement, on ne voit pas sur quelle news le marché pourrait s'appuyer, surtout quand on voit le discours des banques centrales, notamment de la Fed, qui garde un discours assez agressif. D'ailleurs, on a une intervention de Jérôme Powell qui est prévue cet après-midi. Pour l'instant, il n'y a pas d'alternative. On ne voit pas ce qui pourrait faire remonter les marchés. L'euro-dollar reste fortement baissier. J'ai abordé le sujet il y a quelques semaines sur votre antenne, notamment au sujet du carry trading. Tant qu'on a une perspective de hausse de taux supérieure sur le dollar par rapport à l'euro, eh bien, ça met une pression sur l'euro par rapport au dollar et donc on a une poursuite du mouvement baissier. Donc tout ça continue, y compris dans la communication. Donc pour l'instant, effectivement, on a des objectifs. Le support qu'il va falloir surveiller aujourd'hui sur le CAC 40, 5648 points. Ensuite, on a 5585. Si on commence à venir tester ces deux niveaux, ça risque d'être difficile pour la suite.
Merci beaucoup Gilles pour ces quelques indications techniques. Bonne fin de séance sur ce marché délicat. Moins 1,41%, 5672 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, matières à réflexion.
Matières à réflexion qui accueille ce matin Raphaël Dubois. Bonjour Raphaël.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous pour Société Générale CIB. Ce matin, on cause décarbonation et aérien. D'abord, je vous propose de faire un petit état des lieux, de poser ce secteur.
C'est pas forcément l'endroit où il y a le plus de besoin de décarboner, puisque ça ne représente que... Les transports, de manière générale, c'est 14% des émissions de gaz à effet de serre. Au sein des transports, c'est environ 10% de l'aérien. Donc tout ça mis bout à bout, ça fait que l'aérien, c'est 2% des émissions de gaz à effet de serre. Et pourtant, c'est un secteur qui défraie constamment la chronique. On l'a vu récemment...
Que ce soit pour les vols collectifs ou pour les jets privés.
Exactement. Et on a même inventé un mot pour signifier la honte de voler. Alors c'est en suédois que je ne maîtrise pas très bien, c'est le Flixcam, ou en français l'avionte. Donc il y a très clairement un besoin pour le secteur d'agir et d'essayer de se décarboner.
Et il y a des moyens de décarboner l'aviation ?
Il n'y en a pas tant que ça, et c'est tout le problème. Si on améliore le système de propulsion de l'avion, ou bien si on essaye d'améliorer l'efficience énergétique de l'avion, on va arriver à 10, 15%, peut-être 20% d'amélioration des gaz à effet de serre. Donc finalement, ce qui va véritablement jouer, c'est les carburants. Et là, il y a une solution qui semble prendre le devant sur toutes les autres, c'est la production des carburants durables, qu'on appelle en anglais le SAF, Sustainable Aviation Fuel.
Bon, ce Sustainable Aviation Fuel, c'est le principal moyen, donc. Est-ce qu'il y a des alternatives à cette façon de décarboner ?
Alors, c'est déjà un bon moyen, puisque le Sustainable Aviation Fuel permettra de diminuer les émissions de gaz à effet de serre d'environ 80%, donc c'est déjà bien.
Ah oui, pas mal.
On pourrait éventuellement faire mieux, je pense à l'avion électrique ou l'avion à hydrogène, mais il y a des obstacles qui sont encore très forts pour permettre le déploiement de ces technologies. Dans le cas de l'avion électrique, Ce sont actuellement des distances très très courtes que l'on peut faire. Et dans le cas de l'avion à hydrogène, manier l'hydrogène liquide, c'est quand même pas encore quelque chose que l'on sait très bien faire. Donc je pense qu'il va falloir se contenter du SAF pendant encore quelques temps.
Et puis, faut quand même dire que l'hydrogène, chaque fois qu'on l'évoque, que ce soit pour l'auto, que ce soit pour... Il faut encore savoir comment on produit cet hydrogène, parce que s'il s'agit de brûler de la lignite pour fabriquer de l'hydrogène...
Ça n'aura pas d'intérêt.
Ça n'aura pas d'intérêt.
On est d'accord.
Tout ça, que ce soit justement l'hydrogène, que ce soit les électriques, enfin tout ça, on a les moyens de les produire.
Alors, c'est une bonne question parce que ce qui va compter finalement, c'est la matière première qu'on va utiliser. Aujourd'hui, le SAF, on le fait de deux manières différentes, soit avec des huiles végétales, c'est le SAF de première génération, soit en traitant des déchets comme les huiles de cuisson usagées ou les graisses animales, ce sont les SAF de deuxième génération. Et là, c'est le premier problème, c'est que on n'a pas un vivier de déchets et résidus qui est très important. On parle d'environ 40 millions de tonnes. Avec 40 millions de tonnes, on fait 40 millions de tonnes de SAF. Aujourd'hui, le SAF, c'est un marché de 300... Pardon, le marché du kérosène, c'est 300 millions de tonnes. Donc, si on voulait remplacer un pour un, on n'y arrivera pas.
Ou alors, il faut qu'on se mette tous à la baraque à frites, quoi.
Exactement, ça risque de sentir un peu la frite dans l'avion.
Bon, on a parlé effectivement de cette décarbonation, des moyens, des alternatives, etc. Et on n'a pas dit un mot d'un problème quand même important, c'est le coût que ça représente. D'abord de mettre en place cette décarbonation et puis ensuite surtout de l'exploiter. C'est-à-dire que ce SAF, si aujourd'hui par exemple, oublions les baraques à frites, si on en avait... Mmh. Ça coûterait combien de voler avec du SAF ?
Alors aujourd'hui, on estime que ça va coûter environ 1 000 à 2 000 dollars la tonne de plus que le kérosène classique. Il y aura des progrès qui seront faits, qui permettront à d'autres technologies de voir leurs coûts diminuer. Mais la technologie à partir des huiles de cuisson usagées ou des huiles végétales, a priori, on va rester à peu près à ce niveau-là. Donc si on prend... la réglementation européenne qui prévoit qu'à terme, il y aura plus de 60% de SAF dans un plein d'avions. Un Paris-New York qui prend à peu près 88 tonnes de carburant pour faire son vol. On parle de 110 à 220 euros de plus à payer par passager. Donc c'est
considérable.
C'est considérable. Il faut, quelles que soient les solutions que l'on va mettre en place... La décarbonation va nous apporter un surcoût, il faut en être conscient.
Juste, traduisons tout ça un petit peu en matière d'investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où se situent les acteurs de ce monde-là ? Est-ce que ce sont les compagnies aériennes, les motoristes ? Est-ce que ce sont des, entre guillemets, start-up, en fait, de nouveaux arrivants ? Est-ce qu'on les trouve plutôt outre-Atlantique, plutôt en Europe, enfin en Asie ? Où se répartit ce monde de la décarbonation aérienne ?
Alors, comme il s'agit de carburant, ce sont avant tout les raffineurs qui vont faire l'effort financier pour ajuster leur outil de travail. On peut donner comme exemple déjà le site de Grandpuy en Seine-et-Marne qui en 2024 cessera de produire des carburants classiques et fera au contraire des biocarburants, que ce soit pour le routier ou pour l'aérien. Donc on en trouve de chaque côté de l'Atlantique et même ailleurs dans le monde. C'est l'un des moyens pour nos sociétés pétrolières et gazières de se décarboner. Il n'y a pas 36 000 solutions. Ce sera la production d'électricité verte ou bien encore justement la production de ces biocarburants. Donc j'ai cité l'exemple de Total à Grandpuy, mais Eni en Italie le fait également, et Neste en Finlande est l'un des pionniers dans le domaine de la production du SAF.
Voilà quelques idées à avoir sur ce monde de la décarbonation dans le domaine de l'aérien. Merci beaucoup, Raphaël, d'être venu partager tout cela avec nous. Donc analyste sur ce secteur de l'énergie pour Société Générale CIB. À très bientôt. Le marché parisien, il baisse d'un 43%. On est à 5671 points. Un petit coup d'œil du côté du pétrole, qui pour le moment sert à faire voler nos avions. On est à 86,19 $ ce matin pour le Brent de la mer du Nord. L'eurodoll, lui, est à 95,55.
BFM Business, BFM Patrimoine, la sélection.
La sélection qui accueille ce matin en plateau François Chollet. Bonjour François.
Bonjour Cédric.
Et en ligne avec nous depuis Financière de l'Arc et Aix-en-Provence, c'est Amandine Gérard. Bonjour Amandine.
Bonjour messieurs.
Merci d'être au rendez-vous. Vos regards sur ce marché, sur ce nouvel accès de faiblesse finalement, avec ce matin de nouveau plus bas, hein, touché sous les 5600 points. Comment est-ce que vous voyez les choses, François ?
J'aimerais bien vous dire que c'est la première fois que ça nous arrive, mais malheureusement, la machine à laver, on la connaît. On a des flux qui sont vendeurs à sens unique. On a des marchés qui ont du mal à trouver de la liquidité, on le voit notamment sur certains compartiments. Je pense aux valeurs petites et moyennes capitalisation européennes pour lesquelles les performances récentes sont extrêmement inquiétantes, parce que c'est pas vraiment le fondamental qui joue au moment où je vous parle, c'est vraiment les flux de sortie de capitaux. Et tout ça est guidé par des taux d'intérêt qui franchissent quasiment chaque jour de nouveau plus haut et qui montrent bien que un arbitrage devient possible, c'est-à-dire qu'avant on disait il n'y a pas d'alternative à prendre des risques actions, aujourd'hui il y a une vraie alternative, et cette alternative elle est même parfois très raisonnable, puisqu'on peut proposer, dans le cadre d'une gestion par exemple obligataire, des rendements qui redeviennent, y compris d'ailleurs supérieurs à l'inflation, en tout cas si on a un horizon d'inflation prévu à 5 ans, on a des primes de rémunération sur les obligations d'entreprises européennes qui sont désormais très significatives. Et aux États-Unis, c'est également le cas, puisque les taux, ils ont pris un peu d'avance sur les taux européens. Donc se pose la question pour l'investisseur aujourd'hui de revenir sur une gestion de ses liquidités différente que celle que nous avons connue sur les 10 dernières années, où il n'y avait pas vraiment d'alternative. Là, cette fois-ci, l'alternative, elle est créée. Et donc, l'arbitrage sur les marchés actions, il est extrêmement violent. On a des replis qui sont quasiment de 1000 points sur l'indice CAC 40 sur les sommets de cet été. On se demandait pourquoi on atteignait ces sommets cet été. Il y avait un regain d'espoir qui était donné par les résultats des entreprises dans les publications du premier semestre. Mais cette fois-ci, ce n'est pas les problèmes de résultats qui se posent. C'est vraiment des arbitrages de masse sur les marchés et une perte de confiance sur les actifs risqués qui justifient aujourd'hui le recul que nous avons.
Amandine, votre lecture, vous, de ce marché un peu délicat, et effectivement, marché action, oui, mais pas que.
Non, pas que, loin de là, puisqu'on voit que les flux la semaine dernière ont été négatifs, sur l'ensemble des marchés. Hein. Ce qui se passe sur le marché obligataire en relatif est bien plus important en termes de choc que ce qui se passe sur les marchés actions. Donc ça, c'est important de le préciser. Ce qui est important de le préciser également, c'est que les opérateurs qui sont en place sur le marché, bien entendu nous, mais l'ensemble des opérateurs, très peu ont connu de crack obligataire, donc il y a aussi cet aspect psychologique.
Ce manque d'expérience,
quoi. Oui, c'est une première pour beaucoup de monde, et il est clair que ce soit les banques centrales ou les investisseurs, la majorité des gens avaient sous-estimé l'ampleur et la rapidité de la hausse des taux souverains. En témoigne ce qui se passe en Angleterre, qui pour moi est la situation la plus critique à ce stade. On franchit aujourd'hui les 4% sur 10 ans américains. Donc c'était, souvenez-vous, en début d'année, on parlait de franchir les 3% et d'un marché qui craquerait. On est 100 points de base au-dessus. Et le marché valait un peu au-delà encore. Là, on commence à anticiper peut-être même plus que ce que les banques centrales pourront faire dans l'absolu. Donc la situation est délicate, comme le mentionnait François, et très peu de liquidités sur ce marché. Beaucoup, beaucoup de nominaux de produits dérivés, ce qui n'aide pas. On sait que quand on est au cœur de la crise, de toute façon, il n'y a pas de dissociation entre bonne et mauvaise valeur, et en témoigne STM ce matin. Et tout est vendu. Voilà.
On va revenir sur les quelques dossiers effectivement qui se distinguent. Juste des difficultés sur pas mal de marchés.
Alors, je veux bien continuer ce que disait Amandine, qui est intéressant. D'abord, c'est pas la peine d'être plus vieux, parce que j'ai quelques années de plus qu'elle, mais on n'a pas connu non plus cette chose-là, puisque c'est 75 ans qu'il faut retourner en arrière pour retrouver un problème obligataire de cette ampleur-là. Et encore, je crois qu'on n'y est pas. Enfin, en tout cas, significatif par rapport aux performances de ce qu'on connaît aujourd'hui sur les marchés obligataires, parce que là, c'est vraiment des choses qui sont totalement inédites. On vient d'un monde où la masse des obligations était à taux zéro ou négatif, et là, on a basculé dans un autre univers. et c'est d'une violence inédite. Le point qui est assez intéressant, c'est que la Réserve fédérale a guidé sa remontée des taux. Donc, je rappelle, c'est une remontée des taux volontaire pour ralentir l'économie, la croissance et essayer de freiner l'inflation, et notamment l'inflation cœur, puisque du côté de l'inflation et des chiffres qui sont publiés, on a déjà des effets sur les matières premières et l'énergie qui vont venir nous rassurer un petit peu. Et elle a guidé sur une cible à 4,5 à un horizon du premier trimestre 2023. Ça veut dire que, une fois arrivée là, elle attendra les effets du ralentissement pour peut-être amender cette politique de taux. Ça veut dire que si les taux d'intérêt à 10 ans sont aujourd'hui au-dessus de 4, ça voudrait dire que les taux de 4,5 sont susceptibles de rester dans la durée ou de manquer d'effets réels sur les anticipations d'inflation. Ça, clairement, ça signifie donc qu'on arrive quand même, on a dû faire 90 ou 95% du chemin sur les taux longs, notamment américains, par rapport à la conjoncture qui se prépare et par rapport aux données qui ont été communiquées par la Banque centrale. Ce n'est pas encore le cas en Europe, puisqu'on a du retard, on l'a bien vu, et qu'on a une problématique économique vraiment différente. Mais clairement, aux États-Unis, on commence à s'approcher d'un point qui me paraît être au-dessus de 4%, en tout cas sur le 10 ans américain, proche de quelque chose de raisonnable. Alors, dans les marchés comme ceux que nous connaissons actuellement, il peut y avoir des excès, mais en tout cas, on n'est pas loin d'une cible théorique qu'on pouvait imaginer. Donc, ça, c'est un premier signal, parce que c'est aujourd'hui ce qui guide les marchés d'actions et la valeur des marchés d'actions.
Juste, est-ce que... Et ces difficultés sur l'obligataire et ces difficultés sur les marchés de change, sur les marchés actions, enfin bref, ces difficultés un peu généralisées, est-ce que vous imaginez, on ne va pas rentrer dans une expertise ultra pointue, mais que ça veut dire, Amandine, que les mauvaises nouvelles sont déjà dans les cours, ou est-ce qu'en gros, il nous en reste ?
Alors, une grande partie des mauvaises nouvelles sont déjà dans les cours et on traite, le marché européen se traite quand même en dessous de 10 fois les bénéfices pour une moyenne à 13 fois. En revanche, je pense, la dernière patte, c'est l'ampleur de la récession 2023 et donc les révisions de croissance des bénéfices par action à la baisse, parce que très certainement que sur ce sujet, le consensus des analystes est encore au-dessus de la réalité. Et c'est pour ça qu'on va attendre avec grande impatience les résultats du troisième trimestre, pas pour les résultats, puisqu'on l'a vu, l'année 2022 sera meilleure que ce qu'on attendait, mais pour voir auprès des managements comment va s'apprécier l'année 2023. Et à ce stade, personne ne s'est prononcé.
Le marché, il nous aurait sous le pied de la mauvaise nouvelle ou on a tout ?
Le marché, en tout cas, a déjà intégré, et la raison, à peu près 30% de baisse des bénéfices en 2023 pour justifier des niveaux actuels que nous avons sur les indices européens, notamment parce que aux États-Unis, la correction n'est pas encore en termes de multiples aussi sévère que ce que nous connaissons en Europe. Non, simplement, c'est un marché de flux. On a des flux qui sortent des ETF, des fonds d'investissement. Il y a encore, je crois, uniquement quelques... il restait encore, aux dernières publications, quelques flux positifs sur les fonds et les ETF ESG qui collectaient encore de manière positive. Tout le reste est très largement en territoire négatif. On a le sentiment que ça s'accélère désormais. Et donc, c'est plus du fondamental, c'est plus l'information sur les entreprises qui guident les marchés, mais bien les données sectorielles et macro qui viennent perturber la gestion. Et de ce point de vue-là, la bonne nouvelle pour le portefeuille de la sélection, c'est que nous avions un peu de liquidité. Ça nous permet de recoller à la mauvaise performance de l'indice indépendamment des dividendes. Donc c'est 15% de liquidité qui sont encore disponibles dans le portefeuille pour investir. Et de mon point de vue, en tout cas, je pense qu'on n'est pas très loin de la capitulation avec de plus en plus de bonnes idées d'investissement sur ces niveaux.
Et effectivement, on est à un point, grosso modo, de la contre-performance, entre guillemets, de l'indice CAC 40 sur cette sélection. Rentrons dans son détail. Justement, vous évoquiez brièvement, Amandine, le cas d'STM. Alors, voilà, ça nous vient d'Apple,
Oui, tout à fait. On le sait, hein, STM est un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puces pour Apple. Et Apple a communiqué hier soir sur le fait qu'ils allaient ralentir la production d'iPhone 14 faute de demande. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, STM baisse de 6%, alors qu'elle faisait partie des valeurs qui avaient très bien résisté, à la fois pour une problématique de valorisation, mais également de tendance. Est-ce que c'est très grave ? Dans l'absolu, non, parce que rappelons que STM a quand même 2 ans de carnet de commandes devant eux. Donc, on peut penser qu'ils alloueront autrement leur production, et notamment pour attraper une partie du retard du secteur automobile. Donc, pas de panique. C'est vrai que c'est prépondérant Apple chez STM. C'est un de ses plus gros clients, voire son plus gros client. Donc, ça affole le marché et il ne faut pas grand-chose en ce moment pour l'affoler. D'où le lâchage, entre guillemets, aujourd'hui de STM.
Oui, qui est quand même sur une baisse de 20%. Un mot sur STM ou pas, François ?
Oui, mais ça fait partie des valeurs qui retrouvent une cyclicité avec un secteur qui est effectivement dépendant de carnet de commandes et d'un premier client pour STM qui est Apple. Donc c'est évidemment logique. Après, l'ampleur de la sanction est à mettre...
Est excessive.
En tout cas, c'est à mettre en parallèle de la correction qu'on a sur le marché. Non, ce qui est intéressant dans le portefeuille, c'est que d'abord, nous avions voulu ce portefeuille assez équilibré. La bonne nouvelle, c'est que c'est ce qui nous aide un petit peu aujourd'hui. On a malgré tout plutôt des grosses entreprises. Ça nous permet d'éviter le problème de liquidité qui se pose sur les petites et moyennes capitalisations européennes. Mmh. On n'est pas loin d'un point d'entrée. On a perdu plus de 30-35%, je pense, sur les indices de small caps européens. Ça commence à devenir des niveaux assez critiques. Donc, on n'a pas ça. Et du coup, on a des entreprises qui sont plutôt internationales et qui vont bénéficier à plein d'un certain nombre d'éléments, et notamment de l'avantage compétitif du dollar qui a pris beaucoup... De hausse par rapport à toutes les autres devises, et notamment aussi par rapport à l'euro. On a touché, je crois, les 0,95 dans la nuit ou ce matin en parité de change. C'est quand même très favorable à la plupart des valeurs qui sont dans notre sélection. Et de ce point de vue-là, je pense que il n'y a pas de très mauvaises nouvelles à attendre sur les résultats, notamment en fin d'année.
D'accord.
Parce que ces gains de change-là sont quelque chose qui va être un élément de soutien au profit des entreprises. Et donc, juste pour finir la boucle, quand le marché anticipe un tiers de baisse des profits en 2023 du fait de la récession, peut-être qu'on peut avoir des surprises favorables du fait aussi d'un maintien de gains de change significatifs.
Voilà donc sur ce premier cas. Autre dossier intéressant à regarder qui fait partie de notre sélection et qui a beaucoup fait parler de lui, c'est M6, Amandine.
Oui, tout à fait. Qui avait nettement sous-performé en amont de l'annonce officielle de l'arrêt de la fusion entre TF1 et M6. Et puis, on le savait, hein, M6 constituait un intérêt spéculatif puisque son actionnaire principal, Bertelsmann, également actionnaire de RTL, avait précisé qu'il ne souhaitait pas garder cet actif au sein de son portefeuille. Et rappelons-le, les réattributions de licences sont pour le mois de mars 2023, donc il faut que la cession soit effectuée avant cette date-là. Donc cette semaine, on a eu l'annonce des prétendants, deux consortiums et Monsieur Kretinsky. Dans les deux consortiums, donc le groupe de Silvio Berlusconi et Xavier Niel d'un côté, et de l'autre côté, donc on joue en local pour nous puisqu'on a Rodolphe Saadé avec la CMA-CGM, Stéphane Courby, aidé bien entendu par Marc Ladré de la Charrière, qui est un homme des médias. Du coup, M6, dans cet environnement très anxiogène, eh bien, était la seule valeur dans le vert pendant plusieurs jours. Ouais. Et le deuxième élément intéressant sur ce dossier, c'est que les prix qui ont fuité, entre guillemets, se situeraient plutôt entre 19 et 20 euros. Sur les prétendants...
Donc ce qui laisse de l'upside, en clair.
Exactement. Et sur les prétendants qui ont communiqué, on ne devrait pas avoir de problème d'antitrust au contraire de la fusion. Donc, a priori, c'est un dossier qui devrait se déboucler assez rapidement, d'autant que si on prend le cas du consortium avec Rodolphe Saadé, on le sait, la CMA-CGM a beaucoup de liquidités. Donc là-dessus, pas de problème de financement non plus.
quelques idées sur cette sélection. Merci à tous les deux d'avoir partagé vos regards sur ces investissements que l'on suit semaine après semaine. Amandine Gérard depuis Financière de l'Arc, François Chollet pour Montségur Finance. Bonne fin de journée sur ce marché délicat, puisqu'on vous rappelle que le CAC baisse d'un 55% à 5664 points. Dans un instant, 60 minutes business, et c'est donc Sandra Gandoin. Bonjour Sandra.
Vous allez bien?
Votre programme?
Eh bien, on va parler du programme très chargé du gouvernement. Beaucoup de dossiers sur la table d'Elisabeth Borne. Elle est dans les Hauts-de-France aujourd'hui, en déplacement, pour parler du plan hydrogène avec Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher. Et il y aura aussi ce dossier de la réforme des retraites. Dîner mouvementé ce soir et peut-être une troisième piste pour la mettre en place, cette réforme des retraites. On en parlera dans notre focus avec Caroline Morisseau. Et puis on parlera évidemment des cyberattaques qui se multiplient. Hôpitaux, municipalités, entreprises, personne n'y échappe. Nous recevrons une invitée à ce sujet et puis nous répondrons aux questions des auditeurs, téléspectateurs. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission BFM avec vous à 12h30.
60 minutes business dans un instant sur BFM Business. Le marché en baisse d'un 57%. Et moi, je vous donne rendez-vous demain matin à 10h. Très bonne journée.